Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. Aujourd'hui, on va traiter une question qu'on a déjà largement traitée et qu'on a surtout beaucoup traitée sur l'université de l'épargne, à savoir est-ce qu'il faut investir sur l'or et comment investir sur l'or
Et quand?
et quand, absolument. Donc, tout d'abord, je voudrais commencer en faisant juste une espèce de constat, c'est-à-dire regarder le cours de l'or en fait depuis 2022. Donc, on voit qu'au début, c'est assez plat, et puis d'un seul coup, c'est une espèce de quasi exponentielle. Ça va très très vite, et donc le cours a plus que doublé, le cours de l'once d'or depuis lors. Ce qui fait que c'est un actif aujourd'hui très prisé, de plus en plus des institutionnels, mais à la base aussi des investisseurs particuliers,
C'est
retail.
jamais difficile de convaincre un individu d'acheter de l'or.
Oui.
Une institution, c'est extrêmement difficile parce que la plupart du temps, on lui interdit. Alors, donc, si vous voulez, c'est. Mais
Oui,
là.
complètement. Et d'ailleurs, ça fait partie des questions qu'on reçoit le plus dans les commentaires des vidéos. C'est bonjour Monsieur Gave, comment investir sur l'or, etc. Parce que oui, vous savez tous qu'il existe des boutiques qui vendent des pièces, des lingots, etc. Donc, je tiens tout de suite à dire quelque chose, c'est que j'ai rédigé un guide que j'ai conçu pour être le plus exhaustif et le plus facilement compréhensible du marché. Un guide d'à peu près 60 pages qui s'appelle Investir sur l'or en 2026. Comment investir sur l'or en 2026. Donc c'est un guide de l'Université de l'Épargne et il est disponible, je vous le mets à disposition gratuitement. C'est-à-dire que tout d'abord c'est la communauté de l'Université de l'Épargne qui y a eu droit en avant-première et vous n'aurez qu'à vous inscrire sur la plateforme. Donc on vous mettra le lien en description pour vous inscrire sur la plateforme et le recevoir à titre gratuit, exceptionnellement. Je ne sais pas s'il restera toujours gratuit, je ne sais pas encore.
Ça fait
Mais
partie
voilà.
toujours des choses, si vous voulez, comme je l'ai essayé d'expliquer ce matin. Il y a l'Institut des Libertés où on essaie d'expliquer aux gens ce qui se passe, et l'Université de l'Épargne pour ceux qui veulent gérer leur épargne. Et
Oui.
les deux se renvoient, on se renvoie la balle, si j'ose dire, parce que de temps en temps, on fait quelque chose sur l'Université de l'Épargne, mais on dit, tiens, on devrait le filer à l'œil aux gens de l'Institut des Libertés parce qu'ils sont sympathiques, quoi.
Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie qui paye, il y a une catégorie qui
Ben, ils
paye
payent
pas.
pas.
Et donc forcément, la catégorie qui paye a droit à plus de contenu, à plus de ressources. Et là, ça fait partie des ressources typiquement auxquelles elles peuvent accéder. Et donc je vous le mets là pour vous, à titre gratuit. Ça vous permet de mettre le pied à l'étrier un petit peu et de vous poser la question de est-ce que j'ai envie carrément de m'inscrire derrière à l'Université de l'Épargne?
Mais faites attention parce que l'or, ça n'est qu'une partie du portefeuille. C'est-à-dire, ne croyez pas parce que vous avez acheté de l'or que vous allez trouver la solution. Celui qui a acheté de l'or en 1980, après une période très favorable à l'or, il a dû attendre 2020 pour retrouver son pognon. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même, pendant 40 ans, l'or a pas fait grand-chose, quoi.
Complètement,
Et
complètement.
donc, c'est pas une solution, l'or, c'est un outil. Et vous devez pas tomber amoureux de l'or.
Oui. Oui, complètement. Et c'est pour ça que je voulais traiter, puisque je traite quand même de la question pourquoi acheter de l'or dans le document. Au début, je reprends des principes généraux et puis vos principes particuliers aussi. D'ailleurs, on va en parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va moins parler de comment acheter de l'or déjà parce que c'est pas forcément toujours extrêmement passionnant, parce qu'il y a beaucoup de questions fiscales. Enfin voilà, il y a beaucoup de questions à traiter qui sont traitées dans le document. Mais là, on va plutôt traiter de la question de faut-il acheter de l'or, pourquoi faudrait-il acheter de l'or? Et donc, il y a un graphique qui me tient particulièrement à cœur, ça va être le troisième graphique qu'on a là, c'est est-ce qu'on est dans une période où il faut acheter de l'or ou pas? Et là-dessus, vous avez, vous, un outil très particulier pour savoir ça. Alors, est-ce que vous pouvez
Ben,
nous en parler?
c'est-à-dire que, vous savez, l'or n'est utile que quand les monnaies avec lesquelles vous faites le franc français ou l'euro, n'importe quoi, ne sont plus des bonnes réserves de valeur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas épargner en vous servant des obligations locales. Donc, vous faites simplement un ratio entre le cours de l'or et le rendement des obligations locales, la valeur d'un portefeuille qui serait investi à 100%. Si l'or fait mieux, faut être dans l'or. Si l'or fait moins bien, faut pas être dans l'or. Oui, c'est une complication rare, quoi. Et quand fait mieux ou moins bien, c'est en moyenne sur 7 ans. Pourquoi 7 ans? Parce que c'est long. Ce que vous voulez éviter quand vous avez des règles d'édition comme ça, c'est de faire des sauts, un coup je suis dedans, un coup je suis dedans, de faire du trading, quoi. Parce que là, vous voyez que si je prends depuis 1972, vous avez une, deux, trois, quatre, cinq décisions
Oui.
en 60.
En plus 50 ans, ouais, donc c'est, ça va.
Une décision tous les 10 ans, c'est pas, oui. C'est pas sur, on n'est pas surchargé.
C'est assez correct, oui. Et il y a des périodes entières où on fait rien pendant presque 20 ans.
Et, hein, et à ce moment-là, d'ailleurs, l'actif que vous avez, dans lequel vous êtes, parce que vous êtes automatiquement soit en obligation, soit en or.
Ouais.
Dans les portefeuilles.
Ouais.
Mais vous pouvez pas être dans les deux à la fois parce que c'est idiot.
Ouais. C'est-à-dire que l'un exclut l'autre, littéralement.
L'un exclut l'autre.
Mmh, complètement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai voulu tester d'autres trucs. Donc, par exemple, j'ai voulu d'abord regarder parce que on dit souvent, et d'ailleurs, c'est assez à raison, mais j'ai du mal à encore à trouver un indicateur plus fiable que celui-là. On dit souvent que l'or protège contre l'inflation.
Oui.
Alors, c'est une vérité générale, plutôt. Mais, par exemple, j'ai essayé de retrouver la corrélation entre l'inflation et l'or, et je l'ai pas trouvé.
Non.
Je l'ai pas trouvé. Alors, ça peut arriver lorsque l'inflation est vraiment très élevée, au-dessus de 6%, notamment, en prenant le CPI, donc l'inflation aux États-Unis. Sinon, là, l'or fait très bien. Sinon, en dessous de 6%, il n'y a pas vraiment de régularité sur la performance.
Il ne vous protège pas contre l'inflation, il vous protège contre des taux d'intérêt trop bas sur votre monnaie d'épargne.
Oui.
Il ne vous protège pas contre l'inflation, mais là, pendant des années, alors qu'il n'y avait pas d'inflation, ils avaient mis les taux d'intérêt à zéro.
Oui.
Bah, c'est-à-dire que vous ne touchez rien, alors que vous auriez dû toucher pour le risque que vous preniez. Donc, ça vous protège contre les taux d'intérêt bas.
Oui.
Ça ne vous protège pas contre l'inflation proprement dite.
Mmh. Et d'ailleurs, ce que l'on constate, c'est quand on regarde la performance de l'or et des obligations respectivement en fonction des deux régimes, vous voyez sur ces histogrammes, tout d'abord, c'est le régime déflationniste, donc le régime où le ratio obligation américaine à 10 ans sur l'or est au-dessus de la moyenne mobile, et donc à ce moment-là, il faut avoir des obligations. On voit que l'or fait en moyenne du 2,2% en termes réels, et les obligations font du 8,4%. Donc c'est pas mal pour les obligations qui font tendanciellement plutôt du 6% sur la période. En revanche, quand on est dans un régime inflationniste, c'est-à-dire que l'or, le ratio or-bonds est au-dessus de la moyenne mobile, ou le ratio bonds-or est en dessous de la moyenne mobile, ça marche dans les deux sens, à ce moment-là, l'or fait tendanciellement du presque 15%.
Ce qui est énorme.
Ce qui est énorme, hein, surtout pour un actif qui
distribue
pas de dividendes.
Vous doublez tous les 5 ans à peu près. Quoi.
Ouais, c'est colossal. Et à chaque fois, je fais en termes réel, donc diminuer de l'inflation, puisque sinon ça n'aurait pas vraiment de sens de comparer les deux. Et donc là, on voit que cette façon-là de regarder si on est dans un régime inflationniste, selon votre définition, est plus intéressante de détenir de l'or selon cet indicateur-là que selon les indicateurs officiels. Parce que ça, c'est aussi une rengaine dans votre méthode, c'est que vous ne prenez pas vraiment les.
J'aime pas les chiffres officiels. Ouais. Parce que vous savez, c'est toujours pareil. Si vous avez des chiffres de l'inflation et que l'État est endetté, par exemple, et qu'il va, si l'inflation augmente, il va devoir payer plus, mais miraculeusement, les services statistiques vont vous faire une inflation plus basse que ce qu'elle aurait dû être. Donc,
complètement.
J'ai pas du tout confiance dans ces gars-là. Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant, et on le voit bien là, c'est que, en effet, c'est idiot d'avoir à la fois de l'or et des obligations.
Oui.
Parce que selon que vous choisissez, l'un ou l'autre, vous faites des écarts absolument gigantesques.
Complètement.
6% d'un côté et de l'autre côté, quasiment 10%.
Ouais. Et c'est assez curieux parce que généralement, on a tendance à considérer les obligations comme étant plus sûres que l'or.
Pourquoi ? Parce que les gens sont bêtes. Et ils disent que le risque dans un portefeuille, c'est la volatilité. L'or est très volatile. Les obligations sont pas volatiles. Donc, ils vous disent, c'est pas risqué. Comment c'est pas risqué? Vous allez perdre 100%, mais de façon non volatile, quoi.
Oui,
vous voyez
c'est
ce que
ça,
je veux dire?
De façon stable.
C'est stable, de façon stable. Vous irez stablement à zéro, quoi, si j'ose dire. C'est idiot, quoi.
Si la volatilité est le seul indicateur, autant prendre du cash. À ce moment-là, la volatilité est encore plus faible.
Encore plus faible. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens finissent par mettre 100% de leur épargne dans le livret A.
Ouais.
Et te demander pourquoi ils peuvent pas prendre leur retraite à l'arrivée, quoi.
Ouais, exactement. Et, ensuite, je mets un graphique. Alors, ça montre le prix de l'or quand même entre 1980 et 2005. Donc ça, c'est pour illustrer le fait que il y a plein de moments dans lesquels il faut avoir de l'or, mais il y a aussi des moments dans lesquels il faut vraiment pas en avoir.
Et donc de 1980 à 2000, c'est-à-dire plus de 20 ans, vous passez quasiment de 600 à 100.
Ouais.
Donc vous perdez.
En termes réels, alors là, c'est en termes réels. La courbe grise, c'est en termes nominaux, et la courbe jaune, c'est en termes réels. Et donc en termes réels, on perd plus de 80%, c'est 82 à peu près.
82%, donc c'est-à-dire qu'encore une fois, il y a des moments où il ne faut pas avoir d'or.
Ouais. Donc là, pour le coup, sur cette vingtaine d'années-là, spécifiquement, il vaut mieux avoir des obligations long terme.
Oui.
Mais voilà, c'est, les deux doivent s'arbitrer.
Et... C'est-à-dire qu'une fois encore, l'or n'est pas une solution magique, il n'y a pas de solution magique.
Ouais.
Vous avez des actifs qui sont intéressants à un certain moment, à un certain prix, et vous imaginez que vous allez acheter un actif qui va résoudre tous vos problèmes, c'est faux.
Ouais. Et je montre aussi un autre graphique, encore une fois, c'est la valorisation de l'or, et puis à côté du S&P 500, et c'est depuis 2000, donc depuis 25 ans. Depuis 26 ans, ouais. Et en plus, ça, c'est S&P 500 avec dividendes réinvestis.
Oui.
Et là, on observe quand même quelque chose d'assez fou, c'est que l'or fait une meilleure performance que le S&P 500 sur la période. Est-ce que ça arrive souvent, ça, quand même ?
Ça arrive assez peu. Et alors là, il faudrait casser cette période en deux.
Ouais.
Vous avez de 2002 à 2012,
mm-hmm.
c'est-à-dire quand il y a la grande crise financière, les banques centrales commencent à faire... Là, l'or fait beaucoup mieux, le S&P ne fait pas grand-chose. Mais si vous avez calculé à partir de 2012,
ouais.
vous verriez qu'aujourd'hui, le S&P a fait mieux et l'or a fait moins bien.
Ouais.
Donc,
effectivement, d'ailleurs, on voit que l'écart se resserre.
L'écart se resserre, c'est
2012,
un des trucs... Ouais. Si vous prenez 2000, mais 2000 aussi, c'est le plus haut du marché, c'est le haut de la bulle,
tout à fait raison, de la bulle
d'Internet.
Ouais.
Donc, si vous le faisiez avec le S&P 500 equally weighted, probablement, vous trouveriez que la performance est à peu près la même.
Ouais.
Alors, en ce qui concerne le marché des actions, c'est pas du tout aussi tranché que pour le marché obligataire. S'il y a un actif qu'il faut garder tout le temps, l'actif magique, c'est les actions.
Oui.
Parce que vous voyez, il a quand même pas fait, bon, il a fait pas trop mal. Donc, il n'y a pas d'exclusion entre l'or et les actions.
Oui.
Vous pouvez avoir les deux à la fois.
Alors, effectivement, c'est souvent une confusion qu'on a sur l'or. C'est qu'on se dit, l'or, ça me protège contre la chute des actions. C'est-à-dire qu'un actif est forcément exclusif par rapport à l'autre. Alors, c'est vrai que la corrélation entre les actions et l'or est assez faible, mais ça ne veut pas dire que les deux sont exclusifs.
Non, ils sont pas
exclusifs. Au contraire, d'ailleurs, les deux marchent plutôt bien ensemble. C'est-à-dire que quand il y en a un qui a un écart de valorisation par rapport à l'autre, ce n'est pas forcément une mauvaise idée de rebalancer, de rééquilibrer.
Et c'est ce que j'appelle le portefeuille turc, où vous êtes en action
ouais.
et en or, comme ça vous êtes
voilà.
protégé.
Et alors ça swing un peu niveau volatilité, enfin surtout pas sur des pertes maximales, mais en revanche ça marche très bien quand même.
Dans les
périodes oui, de
où vous pouvez pas avoir ni cash ni obligation, c'est le seul portefeuille
ouais.
qu'on puisse avoir quoi.
C'est ça, et d'ailleurs globalement en fait au niveau mondial on est plutôt dans ce que vous appelez une croissance inflationniste.
Voilà, alors ça c'est vrai pour toute la zone de l'OCDE, de nos pays,
ouais.
parce qu'on est géré comme des cochons. Mais je commence à me poser des questions. Si j'étais un gérant chinois ou japonais aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire sur l'inflation, la Chine est en train d'organiser un monde stable. Pour revenir à la conversation que j'ai eue ce matin avec Emmanuel, vous avez des mondes stables et des mondes instables. Là, on est rentré depuis 2012, à peu près, ou même avant, dans un monde instable. Donc là, il faut avoir de l'or. Mais la Chine a fait tout ce qu'il fallait pour organiser autour d'elle un monde stable.
Mmh.
Donc, je suis en train de me poser la question, pour des portefeuilles, béton orienté Chine, etc., est-ce que je dois avoir de l'or ? Est-ce que je suis certain que l'or va faire mieux que les actions chinoises dans les mmh. années qui viennent ? J'en suis pas tout certain.
Ouais.
Donc, ce que je veux dire, c'est-à-dire que pour un portefeuille, le genre de l'Université de l'Épargne ou de l'Institut des Libertés, eux, ils ne peuvent pas ne pas avoir d'or dans leur portefeuille. Mais pour le client qu'on pourrait avoir à Hong Kong, peut-être qu'il faudrait mieux avoir des obligations chinoises et japonaises que de l'or.
Ouais.
Quoi.
Oui, c'est sûr, il y a tout un tas de marchés obligataires qui sont en train de très bien se développer dans cette zone.
Dans cette zone-là. Donc, voilà, c'est simplement votre portefeuille en quelque sorte. Il dépend aussi de l'endroit où vous comptez vivre, de la monnaie dont vous allez vous servir pour acheter votre baguette de pain. Quoi.
Bien sûr.
Si c'est des euros, il faut avoir de l'or.
Ouais. Et si on a une monnaie qui a plutôt tendance à se réévaluer dans les prochaines années, c'est pas forcément nécessaire.
Ça sera forcément le renminbi.
Ouais. Et alors, sur la nature de l'or, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant. C'est qu'on comprend tout à fait, par exemple, le cuivre ou l'argent ou le fer, l'acier, c'est une vraie utilité dans l'industrie notamment. L'or, sa beauté, c'est quelque part, ça ne sert à rien.
Ça sert à rien.
Oui.
Mais Par contre, si vous avez une petite amie, je crois.
Oui.
Si vous lui offrez un joli bijou en or et qu'elle est joliment bronzée, je suis sûr qu'elle sera enchantée.
Oui.
Donc, l'or, c'est probablement ce qui permet à toutes nos épouses d'être de bonne humeur. Quoi. Mm-hmm. Ou quand vous avez besoin de vous faire pardonner quelque chose.
C'est vrai, mais on pourrait.
Un petit bijou en or, ça ne peut pas faire de mal.
Mais on pourrait se poser la question de pourquoi elles aiment l'or, justement.
Parce que c'est
un peu circulaire. Oui, c'est un peu ça.
C'est beau.
Ouais.
C'est beau. C'est, quand vous regardez, hein, j'ai un ami qui avait visité les réserves d'or de la Banque Centrale du Canada il y a quelques années. Il me disait, j'avais le poil qui se dressait sur la tête de voir ce truc-là. Donc ouais. Il y a une espèce de réaction instinctive. Il y a quelque chose qui me fait poiler, je suis un adepte de TikTok. Là. Dans TikTok, j'ai vu un truc qui m'a fait rigoler, c'est qu'il y a un renard qui, quelque part là, en France... pique les boules de pétanque.
Ouais.
Il a déjà piqué une quinzaine de boules de pétanque, qui l'enterre chez lui et tout. Donc, ce renard, c'est beau une boule de pétanque, c'est blanc, etc. Ça lui sert à rien la boule de pétanque. Hein. Donc, il doit avoir un sens esthétique et se dire, vain Dieu, c'est beau, je vais le garder pour moi. Quoi. Mmh. Donc, c'est ça l'or.
Ouais.
C'est cette espèce de truc instinctif qui dit.
Mais c'est comme les. Alors, je crois que c'est les pies hein, qui volent des trucs. Les pies volent des bijoux. C'est aussi les pingouins qui s'offrent des cailloux entre eux.
Pour signaler que vous me plaisez bien.
Voilà, exactement. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on retrouve qui est très.
Il y a des trucs comme ça qui sont. Mmh. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que dans le fond, l'or, ça a de la valeur. Pourquoi? Parce que c'est la question que vous posez. Pourquoi l'or a-t-il de la valeur? Eh bien, c'est parce que, d'abord, c'est beau, et ensuite, tout le monde est d'accord pour dire que ça a de la valeur, quoi.
Ouais.
Là, ça a de la valeur, parce que tout le monde sait que ça a de la valeur. Oui, personne ne pose la question pourquoi ça vaut quelque chose.
De façon très décentralisée, ce qui permet d'ailleurs de faire en sorte que l'or ne peut pas faire défaut, contrairement à un
État. C'est dans le passif de personne.
C'est un actif de personne qui est
au passif de personne.
Voilà, donc par rapport à une obligation, le problème c'est que l'or ne verse pas, il verse ni de dividendes ni d'intérêts, mais en revanche, derrière, il n'y a pas de risque de faillite de l'or.
Il n'y a pas de risque de contrepartie.
Non,
il n'y a pas de risque de contrepartie. Votre or en dessous de votre pommier en Normandie, il est à vous.
Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, dans l'histoire humaine, l'or est apparu comme un actif de valeur, mais pour tout le monde et de manière très décentralisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un conseil des hommes en moins 2000 avant Jésus-Christ ou je ne sais quoi.
Tout le monde serait d'accord pour eux.
Voilà,
et avec le même prix à peu près partout.
Avec le même prix à peu près partout. C'est-à-dire que c'était déjà le masque funéraire de Toutankhamon. Donc ça, là, on est à peu près en 1300 avant Jésus-Christ. Mm-hmm. Il est fait en or. Le roi Crésus de Lydie est généralement crédité d'avoir frappé les premières pièces d'or standardisées autour de 550 avant Jésus-Christ. Voilà, on adosse dès ces siècles-là de la monnaie à l'or parce qu'on se dit, là au moins ça a de la valeur. Quoi.
Ça a de la valeur et ça sera accepté. La monnaie au départ, c'était vous mettiez la tête du roi dessus et si vous ne l'acceptiez pas, on vous coupait la tête. Donc c'était un cours forcé, on appelle ça. Parce que l'or, vous arrivez avec un Napoléon partout dans le monde, c'est tout petit un Napoléon, ça n'a pas vu un gros. Tout le monde le sait, tout le monde sait combien ils le pèsent, combien ça vaut, et ils vous donneront l'équivalent de leur monnaie locale du poids d'or. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que j'ai lu récemment que si on prenait le prix d'une vache à Rome, le prix d'une vache au Moyen-Âge, le prix d'une vache à la Renaissance, le prix d'une vache, etc., ça n'a pas bougé en or, c'est toujours le même prix.
Oui, alors c'est très intéressant, effectivement, parce que depuis 2022, à peu près, le cours de l'or a doublé,
mm-hmm.
et depuis 2022, le prix d'une vache a doublé également.
Voilà.
Donc même à court terme, il y a ce genre d'ajustement, quoi, parce que parfois il peut y avoir des décalages.
Mais... Vous savez d'où vient le mot capital?
Oui.
Ça vient du nombre de têtes de bétail que vous aviez. Et ça c'était votre capital. Et puis à partir de là, ça faisait des petits ou ça faisait du fromage.
Ouais.
Et c'était ça le revenu.
Ouais.
Donc il est rigolo de voir que le capital, c'est l'or. Et que ça vous, avec tant d'or, avec une pièce d'or, je vais acheter une vache ou quelque chose comme ça. Quoi. C'est rigolo. Quoi.
Ouais.
Ça change pas. Ces choses-là sont immuables.
Ouais. C'est vraiment très intéressant.
Mais il n'y a pas de gain de productivité.
Non, il n'y a pas de gain de productivité.
Avec l'or, vous attrapez pas les gains de productivité.
Non. Mais finalement, l'or est un peu là où la valeur est stockée. C'est-à-dire qu'elle a été créée dans le passé. Par le capital, justement, voilà. Par le capitalisme, par la productivité, et ensuite on va stocker cette valeur créée,
en attendant des jours meilleurs,
en se disant on ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir, donc je vais stocker finalement cette valeur.
En fait, vous stockez de l'énergie, c'est-à-dire que vous pouvez racheter la même quantité d'énergie que celle que vous l'avez fait, paf, et ça vous permet de redémarrer un business ou n'importe où. Donc l'or, c'est un stockage d'énergie sous une forme extraordinairement concentrée.
Ouais. Et alors, il y a une question que je me pose aussi, c'est aujourd'hui, on parle beaucoup du fait que les banques centrales, principalement les banques centrales asiatiques, se bourrent d'or dans des quantités...
Elles vendent des obligations pour acheter de l'or.
Voilà, elles vendent des obligations, principalement des pays de l'OCDE, principalement américaines d'ailleurs, pour acheter de l'or, ce que fait la banque centrale chinoise, par exemple. Pourquoi elles font ça, sachant que il y a quand même une forme d'opposition un peu entre la monnaie et l'or? C'est-à-dire, on se dit, finalement, si ces banques centrales achètent de l'or, est-ce que ça veut dire qu'elles n'ont pas confiance en leur monnaie? Enfin, qu'est-ce que ça signifie?
Ça veut dire qu'elles n'ont pas confiance dans la monnaie du mec d'en face. Et qu'elles le savent très bien pourquoi si vous avez le mec américain qui a des déficits absolument monstrueux, qui imprime de l'argent comme un goré et que vous avez des obligations, vous dites ça vaut rien son truc.
Ouais.
Donc je vais prendre des obligations. Et à la place d'attendre qu'ils me remboursent, je vais acheter de l'or avec, comme ça, moi, ça vaudra toujours quelque chose.
Oui.
Donc, il faut savoir que l'or, c'est un grand voyageur. L'or, il se balade toujours. C'est-à-dire que ça commence historiquement à peu près avec Constantinople, hein, vous savez, puis ensuite, ça part à Venise. De Venise, ça part grosso modo vers Amsterdam. D'Amsterdam, ça part à Londres. Et l'or se déplace comme ça, puis de Londres, ça part à New York. Et maintenant, c'est allé en Californie, puis c'est en train d'arriver en Chine. Donc, l'or, quand un pays est en excédent, c'est-à-dire qu'il vend plus aux autres qu'il n'achète, il va se retrouver avec une créance sur les autres pays.
Ouais.
Et ce qu'il va demander, c'est aux autres pays, dites donc, votre créance, là, vous avez des réserves d'or, elles sont pour moi, quoi. Donc, acheter de l'or, c'est montrer qu'on est dominant commercialement, que c'est celui qui est dominant qui a l'air... Et c'est celui, il y a une vieille blague américaine qui dit, c'est celui qui détient l'or qui fait les lois. Et c'est vrai. Celui qui détient l'or, c'est lui qui fait la loi.
Et du coup, est-ce que c'est pas finalement un indicateur presque plus fiable que le PIB ou quoi que ce soit
Tout à fait.
Pour dire
qu'il
sera
la grande
puissance
de demain. En tout cas, il faut jamais acheter la monnaie d'un pays dont l'or s'en va. Ça, je sais, ça, c'est une règle qui ne... Si l'or quitte un pays, ça veut dire qu'il n'est pas rentable, ça veut dire qu'il n'est pas propre. Et donc, il faut toujours acheter les monnaies des pays où l'or arrive, mais jamais les monnaies des pays où l'or s'en va.
Ouais.
Et là, l'or est en train de quitter l'Occident. Pendant 5 siècles, on a circulé tout l'or du monde. Et maintenant, il est en train de partir à toute allure.
Oui, complètement. Et alors, il faut forcément, pour parler de l'histoire de l'or, on ne peut pas parler de l'histoire de l'or sans parler de Bretton Woods.
Oui.
Alors déjà, en fait, à quoi ça sert les accords de Bretton Woods?
Les accords de Bretton Woods, on était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Ouais.
Il n'y avait pas d'assez d'argent dans le système. La plupart des pays étaient ruinés, bombardés, ils n'avaient plus rien. Donc on a fait un accord où les États-Unis ont dit, moi, je vais bloquer ma monnaie vis-à-vis de l'or.
Mmh.
Donc... Puis ensuite, après ça, je vous prêterai des dollars. C'était le plan Marshall. Vous vous prêterez les uns les autres. Vous pourrez développer comme ça. Et s'il y en a un d'entre vous qui a trop de dollars, à ce moment-là, je vous paierai en or, moi, sur l'or des États-Unis. Donc ça a permis le redémarrage. En quelque sorte, ça a permis un développement du crédit basé sur l'or qui était fait pour des pays qui n'avaient pas d'or.
Ouais.
C'était ça un peu l'idée, quoi. Ça a bien marché. Et puis ensuite, ça a tellement bien marché que les États-Unis ont commencé à avoir des déficits monstrueux et que vers 72-73, ils se sont dit, attendez une seconde, si on doit rembourser maintenant tous les gens qui nous amènent des dollars et on leur doit rembourser en or, on ne va plus avoir d'or. Non
ouais.
Donc ils ont cassé le lien entre l'or et le dollar. L'or, le dollar a cessé d'être fixé comme un poids d'or. Et à ce moment-là, c'est ce qui nous a amené dans ce que j'ai discuté ce matin avec Emmanuel, c'est on est passé d'une période stable à une période instable, puis on a eu une autre période stable avec le Deutsche Mark, et puis une autre période instable. Donc, L'histoire des monnaies, c'est je suis dans une période stable où il y a une monnaie dominante,
oui.
Puis elle cesse d'être dominante, c'est le bordel. Puis du chaos émerge une nouvelle monnaie, puis on a une période stable, et puis c'est de nouveau le bordel. Et aujourd'hui, bien entendu, il faut bien se rendre compte que c'est le bordel dans nos monnaies à nous, et que ça stabilise dans leur monnaie à eux là-bas.
Oui.
C'est bien pour ça, si vous voulez, qu'on a la quasi-totalité des fonds investis là-bas.
Oui. Et d'ailleurs, derrière, forcément, ça a des répercussions parce que on se posait la question, enfin, on expliquait tout à l'heure votre indicateur pour mesurer le ratio principalement entre l'or et le rendement des obligations américaines, la valorisation des obligations américaines. Sauf que sur la période, donc on regarde ça depuis 1971 en gros, puisque avant ça n'a pas vraiment d'intérêt avec l'or puisque son prix il est fixe.
On peut le deviner par l'argent.
On peut le deviner par l'argent qui devient le deuxième meilleur proxy, à ce moment-là, c'est du coup le meilleur proxy. Et puis en 71, l'or devient le meilleur proxy. Mais par conséquent, est-ce qu'à l'avenir, ce sera encore pertinent de mesurer cela par rapport aux obligations américaines ? Est-ce qu'il ne faudra pas regarder justement les obligations chinoises ?
Oui. Moi, je commence à regarder contre les obligations chinoises. Et les obligations chinoises à 30 ans, si vous voulez, elles ont fait à peu près aussi bien que l'or depuis 2012. À peu près.
Ouais.
Un peu moins bien, mais pas beaucoup.
Ouais.
Donc, vous pouvez vous dire, probablement, dans l'étape suivante, il va falloir passer de celui obligation américaine contre obligation chinoise.
Ouais. Ouais.
Et si les obligations chinoises commencent à faire mieux, à ce moment-là, ça veut dire que la période d'instabilité est terminée et qu'il faut bourrer comme une bête sur le marché asiatique.
Ouais. D'ailleurs, il y a quelques années, du coup, vous disiez qu'il faut se bourrer d'obligations chinoises.
Ouais,
ça a très, très bien marché. Aujourd'hui, les taux, je n'ai pas regardé ces derniers jours, mais
1,7.
Les taux sont quand même très, très bas.
Ouais. Par contre, la monnaie peut beaucoup monter.
Ouais.
Surtout contre nos monnaies à nous.
Maintenant, il y a le taux de change, effectivement. Il y a la question du taux de change. Et le yuan commence à pas mal se réévaluer depuis quelques mois.
Il est remonté de 6 ou 7% depuis un an.
Ouais.
Donc ça commence à ajouter. Quoi.
Ouais.
Si vous faites du 1,3% sur le taux et du 6% sur le change...
Oui, pour des obligations, c'est correct. Oui.
C'est bien.
Oui, oui c'est très correct. Ouais. Complètement. C'est d'ailleurs, en fait, ça fait à peu près du 8,5%, c'est-à-dire à peu près ce qu'on disait, ce que font les obligations, ce que faisaient les obligations américaines lorsqu'il fallait en avoir, quoi.
Par rapport au ratio. C'est une question importante que vous posez, c'est justement, quelle est. Bon, la monnaie qui a réserve de valeur, maintenant, c'est la Chine, hein, c'est ce qu'on a dit.
Mmh.
Ça doit être aussi la monnaie qui, à terme, devient la monnaie qui vous permet de mesurer, d'être échantillon de valeur.
Mmh.
Donc, automatiquement, ça veut dire que oui. On va cesser d'utiliser le dollar comme mesure de valeur et on va passer au yuan, c'est évident ça.
Ouais.
C'est ce qui s'était passé entre la livre sterling et le dollar dans les années 30. Quoi.
Mmh. Et alors, l'or, c'est aussi pour vous une mesure d'évaluation de l'inflation. C'est-à-dire que vous avez tendance à estimer les prix, non pas tellement les prix nominaux ou même les prix déflatés du CPI, oui. Mais à regarder carrément les prix en or. Donc là, par exemple, je reprends un graphique qui est issu de votre livre en anglais, la théorie générale de construction de portefeuille, où là, on regarde le prix des logements aux États-Unis en termes d'or et on voit qu'en termes nominaux, ils ont pas mal monté ces dernières années, mais en termes d'or, c'est finalement assez bas historiquement, en fait.
C'est assez bas historiquement, oui. Et ça veut dire que vous n'avez pas gagné... Ce que je fais la même chose pour le pétrole aussi. Je prends le prix le prix du pétrole exprimé en or et tout.
Mmh.
Parce que comme ça me donne un machin qui est invariant. Tandis que si je mesure avec un mètre élastique...
Oui.
Un jour, je ferai 1m82, le lendemain, je ferai 1m40, le surlendemain, je ferai 2m40. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas mesurer avec un mètre élastique et vous dire quelle taille vous avez. Quoi, donc non, il faut mesurer avec un invariant. Et le seul invariant que j'ai trouvé, c'est vraiment l'or. Quoi.
Ouais. Et forcément, du coup, derrière, ça fait qu'une once d'or, la valeur d'une once d'or, en fait, elle ne devrait pas être exprimée en dollars, elle devrait être exprimée en once d'or. Et donc, une once d'or, c'est toujours une once d'or.
Voilà.
Et donc, en fait,
c'est pour ça que
l'or a fait 0% depuis l'or des années.
L'or
a fait
0%, exactement. L'or, il fait 0%. Mais c'est pour que dans les années du 19e, où il y avait les talons or, la seule chose qu'il ne fallait pas avoir dans son portefeuille, c'était de l'or.
Ouais.
Parce que ça faisait zéro.
Oui, oui, bah oui. Autant avoir des dollars à ce moment-là.
Autant avoir des dollars qui vous payent des taux d'intérêt.
Ouais.
Donc, ce qui est amusant, c'est que dans les périodes où l'or est l'encre du système monétaire, il ne faut pas avoir d'or.
Oui. complètement.
Donc, si vous voulez, vous avez deux choses importantes. D'un côté, c'est l'évolution des prix que vous pouvez, et vous pouvez vous protéger en utilisant l'or. Vous savez, l'évolution des prix, bon. Et de l'autre côté, vous avez la croissance économique, qui est l'autre cadran, qui est l'autre des possibilités. Et là, c'est le prix de l'énergie. Mmh. Donc, si vous êtes dans une période où il n'y a pas d'inflation, vous ne devez pas avoir d'or, mais il y a une forte croissance économique, puisque à ce moment-là, vous devez vous bourrer sur les actions, etc. C'est les quatre cadrans dont on vous a souvent parlé. Mais c'est une notion très importante, parce que ce qu'on essaie de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas rester avec le même portefeuille toute une vie. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il faut savoir changer en disant... par exemple, en 1980, moi j'avais dit à tous mes clients, j'en avais perdu le tiers à l'époque d'ailleurs, en particulier à Genève, j'avais dit, bon, il faut vendre l'or. Il était au plus haut, à 800, tout le monde m'a dit, vous êtes complètement fou. J'ai dit, il faut acheter des obligations américaines. J'étais encore plus fou. J'avais documenté tout ça avec des rapports. Et j'ai perdu le tiers de mes clients à Genève parce qu'ils m'ont dit, on peut pas vendre l'or parce qu'il faut en avoir toujours dans les portefeuilles.
Ouais.
Ben non. Il y a des moments où il faut en avoir zéro.
Ouais.
Mais il faut accepter, donc, il ne faut pas tomber amoureux de ces positions.
Oui, complètement.
C'est vraiment la règle numéro un. Ce n'est pas parce que vous avez quelque chose, en quelque sorte, l'or, il ne sait pas que vous l'aimez.
Oui, il faut voir l'or vraiment comme un outil à cet égard.
Toutes les actions, les obligations, le cash, tout ça, c'est des outils. Vous ne tombez pas amoureux d'eux, quoi.
Oui, complètement. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un pont avec une théorie assez connue en finance, c'est la théorie de construction de portefeuille de Markowitz.
Oui.
Donc là, en fait, c'est l'idée générale, c'est en gros de prendre des actions et construire un portefeuille d'actions un petit peu comme une équipe de rugby, c'est-à-dire on prend des trucs qui sont assez décorrélés entre eux.
Des gros, des maigres, des petits qui courent vite.
Voilà, du consommateur cyclique, de la santé, un peu de tech, un peu d'industrie, un peu de tout. Le problème de ce truc-là, c'est qu'en temps normal, ça marche assez bien, sauf que quand il y a une gamelle, il y a une gamelle.
Et typiquement, là, vous perdez 50 ou 80%, et là, quand vous êtes dans les queues de distribution, c'est horrible.
Exactement. Donc si on prend un exemple assez extrême, mais qui arrive comme 2008, par exemple, vos actions défensives, elles vont faire moins 45% au lieu de moins 55%, quoi. Bon, bah, super, la belle affaire, quoi.
Et vous avez perdu. Et surtout, la question qui se pose, et c'est pas des blagues, parce que je l'ai connu personnellement, vos actions baissent de 50%. Vous avez une épargne qui, vous pensez, va vous aider jusqu'à la fin de votre vie, vous êtes tranquille. Quand vous avez perdu 50%, vous dites, bah, attendez, si je perds encore 50%, il va me rester plus que 25%. Et à ce moment-là, est-ce que j'aurais vraiment le fuck you money qu'il me faut, quoi, voyez? Vous n'êtes pas certain. Donc à ce moment-là, vers 50%, vous vendez.
Oui.
Parce que vous ne pouvez pas perdre un autre 50%.
Bien sûr.
Et tandis que si vous bâtissez un portefeuille qu'on essaye de le montrer aujourd'hui, bah, il ne perdra jamais plus de 10 ou 15%. Donc vous n'avez jamais ce dilemme il faut que je me mette en cash parce que sans ça, je suis foutu, quoi.
Complètement. Complètement. Parce que là-dessus, il y a l'aspect psychologique où on peut prendre des très mauvaises décisions parce qu'on est gravement dans le rouge. Et puis, il y a l'aspect, par moment, juste, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que quand il y a une crise économique énorme, les revenus ont tendance à baisser. Peut-être que vous avez perdu votre job. Vous êtes viré. Vous êtes obligé de
liquider votre portefeuille.
Voilà, de liquider votre portefeuille pour payer vos loyers, votre gaz, etc. Et donc, par moment, c'est pas juste une mauvaise décision d'un point de vue psychologique, c'est vous êtes obligé de le faire, et évidemment, c'est au pire moment, quoi.
Ah ben, c'est toujours pareil. C'est ce que dit Louis. Il dit, c'est la loi des emmerdements maximum. Hein. S'il y a un crack, vous pouvez sans doute perdre votre boulot, vous allez vous retrouver au chômage, et puis il se trouvera que le gouvernement ne peut pas payer les allocations chômage parce qu'il n'a plus en lui non plus. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que il faut éviter de se mettre dans une situation où je serai forcé de vendre.
Ouais.
Si je vends, c'est parce que je veux vendre.
Et là-dessus, il y a une notion qui a été développée par Nassim Taleb, qui est assez intéressante et que vous appréciez particulièrement. C'est la notion d'actif antifragile. C'est-à-dire que il a développé trois notions, la notion d'actif fragile, actif robuste et actif antifragile. Alors, à quoi ça correspond?
J'ai trouvé ça extraordinairement malin et je m'en suis voulu énormément.
De ne pas l'avoir trouvé.
Parce
qu'en plus, c'est vrai que, pour vous connaître depuis un certain temps maintenant, c'est le genre de thèse qui vous ressemble particulièrement.
Quand je l'ai vu, je me suis dit, merde, alors ça, j'aurais pu y penser à ce coup-là. Mais c'est tellement malin. C'est-à-dire que vous avez des actifs, les actions, par exemple, quand la volatilité de vos actions monte, c'est-à-dire quand elles se mettent à bouger beaucoup, 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 ça baisse toujours. Une augmentation de la volatilité entraîne une baisse, ouais, des actions. Bon, pour toute une série de raisons qu'on pourrait expliquer. Et puis, vous avez trois actifs qu'il a repérés. Donc, on a fait ça aussi avec Didier, on a trouvé ça. Qui sont l'or, le blé et le sucre, qui, quand ils s'agitent, montent. Et donc, dans un portefeuille, c'est idéal, parce que si vous avez des actions et de l'or, si les actions commencent à beaucoup s'agiter, il est probable que l'or aussi va s'agiter. Oui. Et donc, il y en a un qui montera, l'autre qui baissera, et vous vous en sortirez à peu près les fesses, oui, propres, quoi.
Tout à fait.
Donc, cette notion d'antifragilité, et j'en ai beaucoup parlé avec Didier, là-haut, et il me dit, c'est un physicien, il me dit, c'est exactement l'antimatière. C'est-à-dire que c'est comparable à vous avez la matière, tout le monde comprend ce que c'est, puis là, vous mettez de la matière et de l'antimatière, pouf, ça fait zéro, quoi, il se passe plus rien, c'est marrant. Et donc, il dit, la notion d'antifragilité, c'est la notion d'antimatière. Et le truc qui est robuste, bah, c'est le truc à qui il n'arrive rien dans tous les cas de figure, c'est le cash, quoi.
Ouais.
Vous avez de l'argent en cash, s'il est dans une banque tranquille, si vous voulez qu'il vous arrive, il vous arrive rien, ni ça monte ni ça baisse, quoi.
Voilà. Oui.
Et donc, vous avez les trucs qui s'agitent et qui baissent, les trucs qui s'agitent et qui montent, il y en a très peu, et les trucs qui font rien du tout.
Les trucs qui font rien au milieu, ouais.
Mais c'est trois, et en effet, la plupart des gens pensaient robuste et fragile.
Oui.
Ils n'avaient jamais développé la notion d'antifragilité.
Oui.
Mais ce type, il est très intéressant. J'ai lu à peu près tous ses bouquins parce qu'il a trouvé toute une série de nouveaux concepts comme ça.
Oui.
Alors, en tant qu'économiste, il n'est pas très bon. Enfin, il dit des bêtises. Bon, c'est pas grave, mais parce que pour ce qui est de découvrir des nouveaux concepts, c'est un des tout meilleurs.
Oui. Oui, mais il y a des gens comme ça, ils développent des concepts et eux-mêmes, parfois, ne savent pas forcément en tirer le meilleur. Et cependant, il faut que quelqu'un d'autre
on les prend et on part avec.
Ouais.
On les prend, vous savez, c'est moi ce que je te dis, je prends et puis je cours avec et j'essaie de trouver des trucs. Mais là, ça a été pour moi, quand j'ai lu ça, je me dis, bon sang, mais c'est bien sûr.
Ouais. Mais c'est vrai que l'or est un actif à cet égard assez antifragile. Et donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les actions ne s'arbitrent pas par rapport à l'or parce que effectivement c'est pas forcément une mauvaise idée d'avoir les deux au même moment.
Même temps.
Si on et prend alors ce qui est intéressant, 2008, c'est que
en principe, l'actif antifragile de base, c'est le marché obligataire du pays dominant. C'est-à-dire que pendant 30 ou 40 ans, quand les marchés des actions se pétaient la gueule, les obligations américaines montaient avec les taux qui baissaient parce que tout le monde se mettait dans le refuge.
Oui.
Et on voit bien que maintenant, depuis 4-5 ans, les obligations américaines, quand les marchés se pètent la gueule, elles ne montent pas, elles ne montent plus. Mais par contre, les obligations chinoises commencent à monter. Mmh. Donc on voit bien que l'antifragilité, qui était la caractéristique du marché obligataire américain pendant 40 ans, est en train de passer à la Chine. C'est rigolo.
Bah d'ailleurs, en fait, votre graphique, enfin votre règle de décision entre l'or et les bonds permet aussi d'identifier quel est l'actif antifragile à ce moment-là.
À ce moment-là, voilà.
Il y a un coup, l'antifragilité de l'or n'est pas forcément si évidente que ça.
Non.
Un coup, l'antifragilité du marché obligataire américain n'est pas si évidente que ça. Et il faut savoir arbitrer entre les deux.
Et ce que j'essaye de faire en prenant des moyennes très longues, c'est d'être certain.
Ouais.
Qu'on est dans l'un cas ou dans l'autre. Parce que sinon, si vous passez votre temps à bidouiller autour de la tendance, c'est plus une règle. Donc il faut qu'une règle de décision, elle est vraiment importante, elle vous serve tous les 5 ou 10 ans, sinon ça ne sert à rien.
Ouais. Et puis il y a aussi, je pense aussi à la volée, à un autre actif qui peut être intéressant aussi, qui peut être qualifié d'antifragile, mais ça n'a pas toujours été le cas, mais ça a été le cas ces dernières années, c'est le secteur énergie.
Voilà.
Aussi. C'est quand il y a un pet.
Pour qu'il soit antifragile, il faut que la crise qui frappe le système économique soit une crise énergétique.
Oui.
C'est-à-dire que si vous avez une grosse crise inflationniste, comme dans les années 70, ou dans les années 30, une déflationniste, à ce moment-là, l'énergie, ça vous sert à rien.
Ouais, complètement.
Mais si vous avez un pet qui arrive, le détroit d'Hormuz qui est fermé, à ce moment-là, avoir de l'énergie, c'est absolument...
La guerre en Ukraine, le détroit d'Hormuz, ça a très bien
servi.
C'est
pour ça qu'on a mis de 25% de valeur énergétique dans les portefeuilles de l'Université d'Épargne, c'est parce que... J'étais pas du tout certain qu'on allait pas avoir un pet politique sur l'énergie.
Ouais. On a 25% d'énergie, on a 25% d'or, donc on est bien garni.
On est bien, ben voilà, c'était ça l'idée. Encore une fois, c'est de monter 5 ou 6% par an et de pas avoir de soucis, quoi.
Ouais, complètement. Et bon, bah, on a plutôt pas mal fait le tour sur.
Oui, mais encore une fois, quelques trucs importants. On était dans une période stable. Pour dépasser une période instable, on est en plein milieu d'une période instable chez nous, mais elle est en train de se stabiliser là-bas. Donc il faut commencer à réfléchir à comment on va jouer ça. La deuxième chose, c'est ne tombez pas amoureux de ce que vous avez.
Complètement.
Parce que ça, c'est l'erreur numéro un. Ça m'est arrivé, donc je sais de quoi je parle. Donc tomber amoureuse d'une mauvaise créature, c'est pas une bonne idée. Hein.
Mmh. Oui, parce qu'il y a aussi ceux qui, d'un point de vue de rentabilité, n'ont pas forcément eu tort, mais d'un point de vue intellectuel, qui ont tort de dire que ils sont pour le coup amoureux de l'or, ils ne jurent que par l'or.
Ils n'auront jamais que ça.
Voilà, ils n'auront jamais que ça.
Mais ça veut dire qu'ils ont raté une multiplication par 10 de 1980 à 2020, quoi.
Oui. Bon, en général, ils n'étaient pas trop là dans les années 80.
C'est pour ça qu'ils ont dit ça. Ils savent pas grand-chose, les pauvres. Donc voilà, tout ça, c'est des. C'est-à-dire que ce métier est un métier curieux parce que d'abord, il faut continuer à apprendre tout le temps. Et ensuite, si vous voulez, c'est un métier où. Je ne dis pas qu'il y a de l'instinct, mais il y a de l'expérience. Quand, il y a un certain nombre de choses, quand vous les voyez se répéter. C'est toujours la même pièce, mais parfois les acteurs sont pas les mêmes. Donc vous vous dites, tiens, j'ai déjà vu ce coup sur l'intelligence artificielle. C'était au moment des valeurs Internet. Donc vous essayez de comprendre les relations et tout. Donc les bulles et les cracks, ils se ressemblent tous.
Mmh. Et à chaque fois, il y a toujours des gens pour dire, mais c'est pas pareil.
Non, à chaque fois, ils vous disent, ça commence toujours
cette
par.
C'est pas pareil.
This time is different.
Oui.
C'est quand quelqu'un vous dit « cette fois-ci, c'est différent », vous savez que vous allez perdre beaucoup de pognon.
Ouais. Bon, alors voilà, je vous renvoie encore une fois vers mon document. Donc, 60 pages. D'abord, je reprends un petit peu l'or dans l'histoire, dans la culture humaine. Je reprends ensuite l'or pour Charles, c'est-à-dire vos concepts intellectuels. Je reprends l'histoire du ratio avec les obligations américaines, etc. Et puis après, une grosse partie, comment acheter de l'or. Je parle de toutes les méthodes répertoriées, or physique, or papier, ETC, ETF, actions orifères, je parle de tout, je parle même de trucs que je n'aime pas, parce que je préfère que vous le lisiez ici plutôt que vous le lisiez ailleurs. Je vous fais tout un récapitulatif sur la fiscalité, parce que forcément c'est une notion assez importante dans cet arbitrage de comment acheter son or, par quels moyens. Et voilà, je vous laisse avec ce document qui est une espèce d'introduction pour vous finalement à l'univers de l'épargne. J'espère que vous allez l'apprécier et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés et sur l'Université de l'Épargne.
Merci beaucoup.